Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J. Il est 16h et c'est l'heure d'un nouveau journal. Son 22e jour de guerre en Israël. Sur le front nord, le Hezbollah a lancé une nouvelle salve de roquettes vers la Galilée cet après-midi. Le groupe terroriste lançait ce matin une soixantaine de missiles déjà contre la région du Mont Meron et Bir Hanit, Pascal Sunshine.
Le Hezbollah a donc affirmé avoir riposté à l'élimination hier soir par l'aviation de Tsahal de l'un de ses chefs locaux dans la ville de Tyr, au sud Liban. Une frappe effectuée après le tir de deux missiles anti-char hier contre le kibboutz Adamit, qui avait coûté la vie à un civil israélien et blessé 5 soldats. C'est la 25e victime israélienne depuis le début de la guerre, alors que 6 Israéliens ont été tués dans des attaques de la milice chiite seulement depuis la mi-avril. Hier, plusieurs centaines d'habitants de Haute-Galilée avaient manifesté pour protester contre la précarité de leur situation. Pas de sécurité, pas de perspective sur une date de retour chez eux, alors que la guerre impacte non seulement la situation économique des localités frontalières évacuées, mais aussi celle de l'ensemble de la région. Et ce, alors qu'à Beyrouth, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu aujourd'hui une délégation du Hamas conduite par le numéro 2 de Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, pour poursuivre la coordination des fronts entre Israël à la frontière libanaise et à Gaza.
Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le premier ministre israélien affirme que les discussions sur l'après-guerre à Gaza n'ont aucun sens tant que le Hamas est actif dans le territoire palestinien. Aucun haut responsable israélien n'acceptera un nouveau gouvernement à Gaza tant que le groupe terroriste n'aura pas été vaincu. C'est ce qu'a affirmé Benjamin Netanyahou dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux cet après-midi. Il a néanmoins précisé qu'il s'efforçait de trouver des solutions aux problèmes de gouvernance à Gaza. Gaza où Tsahal continue d'opérer, notamment dans le sud du territoire à Rafah. Selon le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, depuis le début de l'opération sur place, les forces israéliennes ont éliminé une centaine de terroristes en une dizaine de jours. L'Union européenne appelle l'État hébreu à mettre un terme à son opération militaire dans le sud de Gaza. Selon Josep Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, cette opération perturbe encore davantage la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Même si l'Union européenne reconnaît le droit d'Israël à se défendre, Israël doit le faire conformément au droit humanitaire international. Le chef de la diplomatie européenne a ajouté dans un communiqué que la poursuite de l'opération pouvait avoir des conséquences sur les relations de l'Union avec Israël. Une déclaration choc du chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan affirme qu'Israël cherchera à occuper certaines parties de la Turquie s'il bat le Hamas. La Turquie, qui a rompu ses relations commerciales avec Israël, maintenu des liens étroits avec le Hamas et fustigé à plusieurs reprises l'État hébreu et ses dirigeants qu'elle a qualifiés de nazis depuis le début de la guerre. Nouveau bilan en Nouvelle-Calédonie. 4 personnes sont mortes dans les émeutes qui secouent l'archipel depuis lundi. 4 personnes, dont un gendarme décédé de ses blessures par balle cet après-midi. Dans ce contexte, le président de la République a décrété l'état d'urgence sur place. En métropole, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit un texte controversé qui a élargi le corps électoral à Nouméa. Enfin, un hommage national aux 2 agents pénitentiaires décédés hier dans l'attaque d'un fourgon dans l'heure sera est en préparation. Selon Le Figaro, cet hommage devrait se dérouler à l'hôtel des Invalides à Paris, mais la date n'est pas encore connue. En tout cas, l'émotion perdure suite à cette attaque. En signe de soutien aux 2 fonctionnaires tués, l'ensemble des organisations syndicales de l'administration pénitentiaire ont appelé à une journée prison morte, aujourd'hui éventuellement reconductible. Le Premier ministre a de son côté assuré depuis l'Assemblée nationale cet après-midi que les assaillants paieraient pour leurs crimes. Gabriel Attal.
Je le dis, l'enquête progresse. Et je le redis ici aux auteurs, nous vous traquons, nous vous retrouverons et nous vous punirons. Ils paieront. Pour le reste, je le disais, l'administration pénitentiaire dans son ensemble est en deuil, choquée. Évidemment, je le dis, nous avancerons avec eux et nous identifierons tous les moyens de renforcer leur sécurité, de renforcer le soutien qu'ils auraient apporté, parce que nous le devons à ces agents, parce que nous le devons à la République, parce que nous le devons à notre pays.
Le Premier ministre Gabriel Attal, cet après-midi, depuis l'Assemblée nationale.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
15h-16h30. Cyril Sarah Cohen.
16h06, merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio J. Si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Fabien Azoulay, venu nous voir pour son livre Istanbul, dernier arrêt, 4 ans dans les prisons turques, sorti aux éditions Stock et gagné par Rémi Abécassis. D'ailleurs, il y aura une petite dédicace juste avant de vous l'envoyer. On passe sans plus tarder à la séquence préférée de nos auditeurs dans cette émission qui s'intitule l'introspection.
Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Fabien Azoulay, Oscar Wilde l'a dit, parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Vous connaissez ça, mais essayons de faire cela à présent ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ?
Rien du tout. En fait, je la reprendrai comme elle s'est déroulée.
Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un enfant pour réussir sa vie ?
Souris. Le moment présent est vraiment ce qui compte. Le passé, c'est le passé. Le futur est incertain. Tout ce qu'on a, c'est le présent. Donc profite, ris, joue avec tes amis, fais ce qui te plaît.
Y a-t-il eu alors un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ?
C'est maintenant que je suis en train de le vivre.
Y a-t-il une erreur dans votre vie, une seule, que vous avez résolue ?
Oui. Oui, 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 oui. Il y en a une.
Laquelle ?
Je suis passé de par... à travers la prison, d'un type un peu arrogant, un homme aujourd'hui qui a le cœur ouvert, en fait, qui est généreux et dont l'âme est vivante.
Et c'est vous ?
Aujourd'hui, c'est moi.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire alors aujourd'hui, mais que vous ne faites pas ?
Apprendre l'hébreu, apprendre la danse, revoyager. Il y a tellement de parties merveilleuses dans le monde à découvrir. Donc je referai ça un jour, peut-être, mais pour l'instant, je ne le fais pas.
Quelle est la chose que vous avez réalisée dans votre vie et dont vous pensez justement vous souvenir toute votre vie ?
Mes années à New York, c'était quelque chose de fantastique, de... Pas tout le monde a la chance de côtoyer des célébrités, de même faire copain-copain avec des célébrités pour certaines d'entre elles.
Si je vous parle d'amour, comment cela résonne pour vous ?
Oui, bien. Un sentiment inexplicable, des papillons dans le ventre. Ça m'est arrivé, ça aussi. J'ai eu cette chance de connaître le vrai amour. Donc, voilà, quelque part, je me dis, si ça ne se reproduit pas dans cette vie, c'est pas grave parce que je l'ai touché du doigt déjà une fois et c'était magique.
Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre personnalité ou bien sur votre corps, ce serait quoi ?
J'aurais dit l'impatience, mais même ça, j'ai réussi à le cultiver en prison. Donc c'était un gros défaut que j'avais, l'impatience. Et certains diront que j'en ai encore quelques résidus aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus atténué que ça ne l'était à l'époque.
Si vous étiez président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ?
Ça c'est une question... Première... Joker.
Il y a une anecdote avec quelqu'un que vous avez rencontré en prison qui est un petit peu longue, mais vous l'avez conseillé, je crois.
Oui, avec un
entre guillemets
un détenu qui était radicalisé, que j'ai réussi à un peu sortir de là. Je vais pas dire déradicaliser, mais je suis. Il y a fort à parier que quand il sortira de prison, il recommettra pas le même crime ou des crimes antisémites. Ça, j'en suis quasiment sûr.
Peut-être donc des moyens là-dedans qu'on pourrait donner. Pour terminer, Fabien Azoulay, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous?
Une personne au grand cœur qui est prête à aider. Donc, si quelqu'un me croise dans la rue, qu'il soit pas intimidé, bonjour, un sourire, je suis ravi.
Merci beaucoup. On découvre ensemble à présent un coup de cœur que nous allons certainement partager sur Radio J.
Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Bonjour Noam Cartozo.
Bonjour à tous. Ça
c'est un très grand plaisir de vous revoir.
Partager.
Parce qu'on a partagé une interview il y a très longtemps.
Il faut raconter cette anecdote.
Ah bah alors, je vous laisse le plaisir de le faire.
Ok. Cyril a été ma première intervieweuse de ma vie, voilà, de toute ma carrière, sur une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui.
C'est ça. Enfin, qui n'existe plus pour la chaîne, je ne sais pas, mais une émission qui n'existe plus, voilà, qui s'intitulait Mazal TV, exact, présentée, ouais, par Yves Toledano, qui m'avait donné ma chance. Je crois que nous étions en 2011.
Exactement.
Si mes souvenirs sont bons.
On avait 8 ans et demi.
C'est tous ça, les deux. Voilà. Exactement. Et cette séquence existait déjà, comme quoi, voyons, on ne lâche rien.
Bah, je suis très content de revenir.
La rubrique coup de cœur reste très importante pour moi. Donc, on se connaît en effet depuis très longtemps, oui, et même avant cela, puisque on se connaît depuis l'époque de la série L'Ascenseur.
Exactement. Ouais.
Que vous réalisiez, que vous écriviez avec Pauline de Chavannes, la fille de Stéphane, oui, Tazimovic, que j'embrasse très fort, devenue attachée de presse depuis. Fini l'entre-soi, vous êtes comédien, artiste
et aussi
engagé.
William Benhamou,
et William, voilà, Benhamou qu'on embrasse, exactement. Comédien, artiste engagé, on peut le dire, en tout cas aujourd'hui.
Sans le vouloir, mais oui, ça m'est tombé dessus.
Sans le vouloir, vous désirez aujourd'hui que l'on parle de votre engagement sur les réseaux sociaux, qui est très fort, par le biais artistique, contre toute forme d'enfermement, j'ai envie de dire, parce que ça, ouais, a commencé avec le confinement, on va y venir dans un instant, mais est-ce aussi par les discriminations, à commencer par l'antisémitisme, mais aussi les violences commises depuis le 7 octobre. Et vous avez fait pour cela beaucoup de choses, j'ai envie de dire, beaucoup de différents projets, ouais, que vous avez développés. Et dernièrement, un qui a pas mal buzzé, même si je n'aime pas ce terme.
Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé buzzer pour de bonnes raisons et pas quand les
pour
choses vont mal.
Choses, voilà, en tout cas, ça, oui. Ouais. Des clichés, photos prises par Léa Marciano, avec qui vous avez déjà travaillé, oui, sur le court-métrage We Will Love Again, dont on va parler dans un instant. C'est un magnifique, long travail réalisé ensemble, avec aussi une maquilleuse que vous souhaitiez, oui, mettre en lumière.
Oui, c'est vraiment le maquillage qu'on voit en premier de Yolaine Desté. C'est vraiment ça qu'on voit en premier sur les clichés, avec toutes les insultes et les mots antisémites qu'on recevait sur les réseaux sociaux, qu'on a retranscrit sur mon visage. Donc voilà, c'est un travail à trois, pour trois clichés qui sont à la fois, ouais,
terribles et merveilleusement mis en lumière, en tout cas pour la réalité des Juifs français, et sans doute, mmh, pas que, évidemment, avec plusieurs mots. Hitler avait raison, ouais, sioniste égale fasciste, colonisateur, ouais, criminel. Il y a d'autres mots, race maudite, ouais, vous mentez sur le 7 octobre, crève, youpin, sale riche, génocidaire, sale juif, ouais, israélien, colonisateur,
ça
criminel.
Ça fait bizarre de tous les re-entendre aujourd'hui.
Et oui, mais c'est très important parce que
malheureusement,
c'est une réalité.
Il faut savoir qu'on a corrigé les fautes d'orthographe, hein, sur la photo, parce que tout ce qu'on recevait, c'était évidemment très très mal écrit.
Ces photos, elles ont relevé une attention très particulière. Comment vous avez eu cette idée?
Voilà, c'est Léa Marciano qui est l'initiatrice de ce projet, qui s'est dit, mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on reçoit, on peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on mette chacun nos talents, que ça soit par l'acting, que ça soit par le maquillage ou que ça soit par la photographie. On a réuni nos talents à trois. Et on s'est dit qu'il fallait poster ces photos. Et hasard de calendrier ou pas, on a posté ça la journée internationale de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Alors on va y venir, mais je tiens à dire que la légende aussi a une grande importance, que j'ai trouvée très, oui, réfléchie, très intelligente. Elle dit ceci: vous en avez marre d'entendre parler de l'antisémitisme, nous en avons marre de le vivre.
Je pense que c'est ce qu'on ressent tous, tous ceux qui sont de notre religion aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais en fait, on le vit tout le temps au quotidien, quoi. C'est vraiment quelque chose qui qui pèse, en fait, qui est pesant. Et en fait, on voit que les écritures prennent toute la place, non seulement sur mon visage, mais on déborde un peu sur le reste de mon corps. Il faut savoir que si on avait dû écrire toutes les insultes qu'on...
Votre corps n'aurait pas suffi.
Je n'ai qu'un petit corps, il aurait fallu remplir une bibliothèque nationale, je pense.
Noam Cartozo, vous venez de le dire, vous étiez à la manifestation du 8 mars,
ouais.
À Paris, lors de la Journée internationale des droits des femmes, et vous faites partie de ceux qui ont témoigné,
oui,
pour parler de l'horreur.
Je pense que ce n'était pas une journée internationale du droit des femmes ce jour-là. C'était une journée du Troisième Reich, clairement. C'était une journée où on a vécu l'horreur, on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre, et jamais... Enfin, des choses qu'on a vues dans les livres et dans les films, quoi. C'est des choses vraiment de manifestations anti-juives, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Vous étiez certainement avec vos amis, ouais, celles évoquées, ouais, qui sont engagées comme vous, artistes, ouais, et engagées. Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué?
Déjà, c'est le fait de vouloir nous encercler. Il y avait une volonté de vouloir nous encercler, de nous bloquer. Déjà, qui était très, très oppressant. Après, c'était des slogans sionistes égale fasciste. Il y a toujours le truc très particulier de jamais dire juif, mais de dire sioniste pour désigner les juifs. Et en nous pointant du doigt, en nous crachant dessus, en nous jetant des objets divers, des œufs, des bouteilles, de n'importe quoi, des poubelles.
Est-ce que vous étiez accompagné par les femmes qui venaient pour,
ouais, on était avec
pour les violences faites en,
exactement,
Israël le 7 octobre?
Exactement, on était avec le collectif Nous Vivrons.
Ouais.
Et voilà, on était accompagné de pancartes que ces femmes nous avaient distribuées, qui étaient donc pour dénoncer les massacres, les viols, les mutilations que les femmes subissent depuis le 7 octobre. Il n'y avait aucun drapeau israélien dans notre cortège. Alors, ok, c'est un choix. Moi, je me cache pas de le porter, ce drapeau, mais c'était une volonté du collectif de pas en avoir. Et malgré ça, malgré que le message il soit destiné et dédié à ces femmes-là, on s'est fait cracher dessus lors de la journée internationale du droit des femmes. On s'est fait traiter de sale pute, de sale juive, de sale tout ce que vous voulez.
Parce que Nous Vivrons voulait dire on est juif.
Exactement.
Ouais. Donc c'est comme ça que vous êtes fait repérer, si je puis dire, sans le drapeau israélien. Noam Cartozo, vous parlez des violences faites aux femmes. Il n'y a pas que celle-ci, on en parle énormément, mais il y a aussi les violences faites aux hommes,
ouais,
qui ont été et qui ont existé en Israël, qui existent peut-être même encore, ouais, même si ça tue de le dire. Et vous avez réalisé un court-métrage qui s'appelle We Will Love Again.
Alors moi, j'ai juste joué dedans. Bah là, là.
Enfin, voilà, joué dedans, mais réalisé par Léa Marciano.
Toujours
en association.
Elle, hein.
Mais c'est très bien, on aurait pu l'inviter, on sera avec plaisir le plaisir de la recevoir. En association avec donc ce collectif qui s'appelle Nos Silences,
ouais,
voilà, prisé par Mélanie Poli-Jace,
ouais,
une allégorie du 7 octobre qui met en lumière donc ces victimes sexuelles du 7 octobre, qu'elles soient femmes ou hommes. On peut retrouver ce court-métrage sur YouTube, sur le compte We Will Love Again. Je l'ai vu, mais j'aimerais que vous en parliez. Et c'est aussi important de dire que la voix qui est omniprésente, c'est celle de Pascal Elbé.
Pascal Elbé, exactement, qui a eu, on a eu la chance de l'avoir pour ce court-métrage. Et oui, ça a été un travail d'équipe aussi pour ce court-métrage, qui commence bien. C'est un court-métrage qui est beau, qui parle d'amour, et hasard de calendrier ou pas, mais c'est sorti aussi pour la Saint-Valentin. Donc c'est un court-métrage qui est mignon de base.
Vous êtes sur la plage, censé être en amoureux.
En amoureux, avec
votre
des
chérie.
Amis, des joggeurs qui passent. La vie continue, la vie passe. Et dans une fraction de seconde, les notifications sur les téléphones portables nous alertent que quelque chose va se passer de terrible. Et là, on voit... symbolisé par des hommes et des femmes sur des chevaux qui vont vers nous. On comprend que il y a justement un parallèle avec les terroristes du Hamas. Il y a tout ce qui est les violences faites aux hommes, aux femmes qui sont pas montrées, mais qui sont suggérées.
Parce qu'on vous voit vous débattre, mais on ne sait pas contre qui.
Voilà, exactement. On met pas de visage sur les terroristes pour justement montrer que c'est une ambiance pesante, une ambiance qui est toujours dans l'ombre, qui nous menace. Et oui, et à la fin, on finit sur une image de jogging ensanglanté, qu'on a pu voir aussi sur les vidéos des terroristes du Hamas. Hommes et femmes ont porté les joggings ensanglantés.
Je laisserai le soin aux auditeurs de venir découvrir ce court-métrage poignant. Noam Cartozo, j'ai dit en début d'émission que vous étiez contre toute forme d'enfermement et de discrimination. Pourquoi j'ai dit le mot enfermement? Parce que déjà, quand on est kidnappé, on est enfermé. Ouais. Et parce que le Covid vous a aussi beaucoup inspiré à une période. Vous vous êtes fait connaître pour Question pour un balcon.
Voilà, ça c'est plus léger déjà, je suis content d'en parler.
C'est plus léger en effet, mais ça vous a fait connaître. Vous avez le don de buzzer toujours. Et il est important de rappeler que vous êtes surtout comédien.
Oui.
Vous êtes sur scène dans pas longtemps.
Exactement.
Où ça?
Au Pouliguen le 12 avril, c'est vers la Bretagne. Voilà, on est très content pour Les Trois Mousquetaires environ. Voilà.
Et il y a aussi Don Quichotte ou presque.
Don Quichotte ou presque, voilà, on joue en octobre.
Une autre pièce de théâtre voilà. Que vous jouerez donc à la rentrée.
Voilà, ça tourne depuis 10 ans, on est très très content de ces deux pièces-là.
Noam Cartozo, je vais vous poser la question touchy, mais je suis obligée de la poser puisqu'on est sur Radio J.
Alors,
est-ce que le fait d'être un artiste engagé ne vous fait pas payer un petit tribut?
Je pense. Parce que c'est vrai, depuis 7 octobre, je crois que je dois avoir perdu entre 5000 et 6000 abonnés sur mes réseaux sociaux. Est-ce que c'est grave? J'en ai rien à faire. C'est des gens qui m'ont suivi pour je ne sais quelle raison et qui ne m'acceptent pas pour ce que je suis. J'en ai rien à faire. Qui partent, qui prennent la porte, tant pis pour eux. Mais est-ce que économiquement, je vais perdre? J'en sais rien. Là, c'est trop frais pour le dire. J'espère que, voilà, aujourd'hui on est à Radio J, vous allez m'engager pour d'autres choses. Non, je sais pas.
Ce serait avec grand plaisir que vous engagerez, vous voilà, savez très
après,
bien.
Après, le but, c'est pas que de travailler avec des gens de la communauté juive. J'adorerais consacrer toute ma vie à la communauté juive, mais c'est pas ça le but d'une vie, c'est d'être assez pluriel, d'être
ensemble.
Voilà, d'être ensemble, mais d'être dans tous les horizons. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre pays, qui est la France. C'est de pouvoir travailler avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Mais est-ce que je vais le payer? Je sais pas. Est-ce que Arthur, il va le payer, lui? Je sais pas. Mais en tout cas, lui, il le fait. Et lui, ça a été un leader pour moi. Ça a été un leader. Quand j'ai vu que lui, il osait prendre la parole, j'ai dit, il faut le faire. Il faut le faire, on va pas le laisser tout seul. Donc voilà.
Merci Noam Cartozo, à retrouver donc sur Instagram Noam Cartozo et puis ce court-métrage que nous venons d'évoquer We Will Love Again à retrouver sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui sur Radio J et vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Vous le savez, la porte est ouverte. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité.
Radio J.
15h-16h30, Cyril Sarah Cohen.
Radio J. Le portrait psychologique.
Comme toujours à la fin de cette émission, Fabien Azoulay, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, vous êtes introduit par Sandy Boulanger, ou plutôt j'introduis Sandy Boulanger pour ce joli portrait. Bonjour Sandy.
Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien Azoulay, bonjour Noam. Alors j'ai envie de dire encore une fois que l'invité et le coup de cœur sont toujours très liés chez Cyrielle. Ben voilà, messieurs, vous êtes des alchimistes de l'enfermement physique et psychologique, alors bravo. Et puis on va commencer par les trois mots que vous nous avez partagés pour vous définir, qui sont libre, heureux et accompli. Et vous allez voir comment on vous a bien retrouvé tout au long de cette interview. Alors on commence par l'enfance que vous nous avez dite, avoir été entouré d'amour et entouré tout court au vu de votre énergie débordante. Il fallait vous canaliser dans une famille modeste mais qui vous a donné la hargne de vivre, de réussir, cet American Dream qui a continué de vous pousser. Et puis vous bâtissez votre empire quand même, hein, parce que vous n'êtes pas allé là-bas pour taper des drops, hein? Non. Vous bâtissez un empire dans les spas. Et puis, lassé du glaçage brillant du bien-être, vous vous lancez dans un tour du monde, au bout de 13 ans. Alors vous partez tel Ulysse, hein, quand même un peu, hein. Voilà, vous voyagez à travers le monde, et puis vous vivez l'impensable. Vous êtes arrêté. Vous êtes enfermé dans un monde dont il faut rapidement connaître les codes et le langage. Et puis des règles qui sont mouvantes également, c'est pas facile. Vos origines et votre orientation sexuelle vont vous faire traverser les enfers. Alors écrire une fois libre, écrire pour dire, écrire ce qui peut délivrer. Et puis vivre au-delà de ce que vous avez laissé de vous, là-bas, et témoigner pour que votre enfer ne puisse advenir encore à d'autres, peut-être. Mais aussi, je me dis que de partager l'impensable, eh ben, ça permet de faire évoluer face à l'impuissance de l'injustice aussi. Il y a une vague de soutien du monde entier qui vous permet de tenir le coup, de tenir le choc, de maintenir ce système d'hypervigilance qui était le vôtre, nécessaire, mais cet état aussi de dissociation, c'est-à-dire de rester dans son mental et de quitter son corps pour supporter les horreurs et les traumas. Ce monde intérieur qui va vous maintenir finalement dans ce lien vital entre l'esprit et le cœur. Alors, c'est émouvant de faire votre portrait, Fabien, vraiment.
Merci.
De voir et puis d'entendre l'homme sensible que vous êtes, ayant mûri dans la traversée des ombres de l'injustice, ayant intégré dans chacune de vos cellules la puissance du pardon. Bah, c'est chamboulant quand même d'être à votre côté. Alors vous avez la grandeur de ceux qui ont traversé les plus bas et qui conservent ce corset de la dignité nécessaire pour se verticaliser dans l'humanité. Et il en faut encore et encore. Vous avez cité Viktor Frankl qui vous a inspiré. Bah oui, c'est lui qui cite aussi dans son livre que peu importe le comment, le how, quand on a un pourquoi, le why. Ça me rappelle ce livre aussi de Georges Samprin, L'écriture ou la vie. Où lui, sortant des mêmes conditions que Frankl, il souhaitait ne parler de rien, tout arrêter, arrêter d'y penser. Mais c'est impensable quand on l'a vécu. Alors vous partagez de cœur, votre cœur à tous ces cœurs. Vous êtes bien sûr senti soutenu. Et aujourd'hui, à votre tour, vous soutenez. Vous faites partie de ces rares humains qui, lorsqu'ils ont reçu, sont prêts à donner. Alors ne changez rien, bien sûr, de votre vie, Fabien, parce que vous avez intégré cette philosophie la plus intime et la plus douloureuse. C'est accepter que de vivre, c'est autant recevoir le merveilleux que l'horrible. Voilà. Vous êtes un homme accompli, donc hein, forcément généreux. Et puis surtout, vous avez le cœur ouvert, oui, vous nous l'avez dit. Et puis on le voit bien, ouais, c'est vrai. Vous êtes un symbole de la résilience, d'oser affronter l'espérance, de se remettre en question et puis surtout bah, de rester debout dans le monde, notre monde. Alors merci beaucoup pour merci. Tout ce que vous avez partagé.
Merci à vous pour ce beau portrait.
Wow.
Merci Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J.
Radio J.
15h-16h30, Cyrielle Sarah-Cohen.
C'est la fin de cette émission avec vous, Fabien Azoulay. Vous aurez le portrait, c'est promis. Sandy vient de vous dire qu'elle vous laissera ses fiches. Elles sont très jolies, mais vous savez, c'est immortalisé sur YouTube. Vous pouvez revoir quand vous voulez. Vous êtes venu nous voir pour votre livre intitulé « Istanbul, dernier arrêt » sorti aux éditions de Stock que nous offrons à Rémi Abécassis. Pour terminer cette émission, puisqu'il nous reste un petit peu plus d'une minute, vous avez amené une kippa que vous avez voulu poser sur la table. J'aimerais brièvement que vous nous expliquiez pourquoi.
Alors je m'en sépare jamais puisqu'elle m'a été offerte à ma sortie de prison. C'est en fait une kippa qui a été gravée, signée par plusieurs personnes qui me soutenaient pendant que j'étais incarcéré et qui a été ensuite gravée à la main par un survivant de l'Holocauste qui avait 98 ans à l'époque. Et donc ça a une valeur inestimable à mes yeux et je me déplace jamais sans cette kippa.
Merci beaucoup Fabien Azoulay d'être venu nous voir aujourd'hui sur Radio J. Merci à Noam Cartozo d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. Coup de cœur d'un jour, coup de cœur toujours, ah ouais. Vous savez.
Ouais, merci à aussi, c'est mon coup de cœur.
Toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Samuel Pintel pour une autre histoire extrêmement touchante. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je
des livres et des enfants avec Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie.
Bonjour Léa, comment allez-vous?
Je vais bien, et vous-même?
Bah écoutez, la semaine dernière, on a eu une émission énergique avec Ilana. Ça a été un peu différent de votre ligne éditoriale, on va dire.
Ah, bah oui, moi c'est plutôt la douceur. Quoique. Alors, qui sont les adolescents, Nathalie? C'est votre thème ce matin.
Alors, imaginons que nous ayons deux adolescents, on va dire Julie et Stéphanie, par exemple, qu'elles rentrent en librairie et qu'elles cherchent quelque chose qui pourrait, en tout cas, les animer et susciter leur intérêt pour de la lecture. Mmh. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai donné à bon escient, vous voyez, deux noms de jeunes filles, hein. Mmh. J'ai pas donné de noms de garçons. Pourquoi? Parce que les livres pour adolescents aujourd'hui se tournent énormément sur les filles, moins sur les garçons. On a eu, vous savez, hein, l'époque Harry Potter. Et je regrette qu'il n'y ait plus de grands héros adolescents garçons pour faire quelque chose.
Comment ça s'explique, ça? On l'explique pas, peut-être?
On est dans l'air du temps, on essaye de privilégier le jamais sans elle, E2LES, mais
ça, vous savez, c'est votre explication.
C'est un peu mon point de vue, parce que les livres, on parle de l'émotion, on parle de combat. Et c'est vrai que il y a beaucoup de filles. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, parce que vous savez, quand on était enfant, nous on avait Martine et Caroline, donc c'était peut-être d'un autre temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de s'identifier à des héros et à des héroïnes. Et je pense que les éditeurs se trompent énormément en ne donnant la parole qu'en grosse partie, vraiment, qu'à des filles. Mmh. Et là, pour moi, ça pose problème, parce que les garçons avec lesquels on a vraiment de difficulté à amener la lecture, à amener le narratif, à développer, vous voyez, une passion qui va dépasser les mots ou les histoires, ben, on en trouve peu. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc on va commencer tout de suite déjà avec ça parle à tout le monde. Ça s'appelle Sacré Dieu. C'est aux éditions. C'est une histoire complète. C'est vrai que pour les adolescents, on a du mal à comprendre ce qu'est Dieu, ce qu'est la religion. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et malheureusement, on n'en parle pas par le bon prisme. Donc c'est Frédéric Lenoir et Anne-Lise Combeau qui nous expliquent tout ce que vous avez toujours aimé savoir ou voulu savoir sur Dieu. Et c'est une bande dessinée, puisque c'est chez Rue de Sèvres. C'est vraiment accessible à tous. Ça explique et surtout ça développe chez l'adolescent, voyez, beaucoup de réflexion et en même temps beaucoup d'intérêt. Donc on va poser des questions, on va s'interroger et en même temps on va essayer vraiment de dialoguer avec l'autre, et c'est aussi important. Donc c'est aux éditions Rue de Sèvres. On a également Les 10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse de Clémentine de Pontavis et Alice Dussautour aux éditions Glénat. Là aussi, hein, c'est pas toujours simple de parler d'identité sexuelle, de genre, de violence, de la vraie vie, de sexe, de plaisir, parce que les parents, ils sont aussi des problèmes, ils se bloquent et il y a des sujets qu'ils n'abordent pas. Donc, il faut aller piocher ailleurs. Et là, on va combattre 10 idées reçues sur la sexualité pour justement aborder et discuter de tous les sujets. Et je pense que c'est très important. Ensuite, on aura chez Casterman un livre qui s'appelle Émotive. C'est Voyage à bord d'un vaisseau mental. Pourquoi ce livre est important, de Sandrine Martin? Vous savez, depuis quelques années maintenant, on parle de la santé mentale des gens, des adultes. Et on s'aperçoit que l'adolescent est touché par ce genre de problème. Alors parce que on connaît tous les problèmes qu'il peut y avoir à l'école, le harcèlement, de ne pas trouver sa place, des difficultés à l'école. Et donc si on va découvrir ce vaisseau mental, on pourra évidemment voir comment la vie va s'ouvrir et comment les choses vont se déblayer au fur et à mesure que l'on avance. Et c'est tellement bien fait, parce que on nous prône de l'optimisme, de la joie, du calme. C'est un peu de bienveillance, ça fait toujours plaisir. Et on n'a pas toujours les bons mots, nous, en tant que parents, pour en parler. Donc, c'est vraiment
compliqué. Est-ce que des psychologues, par exemple, prennent part à la rédaction de ces livres où vous parlez beaucoup de la vie des adolescents, de leurs émotions, leurs sentiments?
Oui, oui. Alors, beaucoup de psychologues. Ou alors, vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal d'instagrammeurs, d'influenceurs qui deviennent des spécialistes et qui amènent leur pointe un peu de professionnalisme et voilà d'expérience. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sous la forme de bande dessinée, donc ça c'est très important. Ensuite, on a un livre qui s'appelle Césure de Laure Garanchet, et on a cinq femmes qui partagent leur désir d'ailleurs avec les dessins de Joyce Colson, Limsella, Caroline Perron, Juliette Taka et Lou Zagon, et les couleurs de Sandra Violo. C'est un livre qui va à la rencontre de ses racines. Donc, on va nous emporter en Inde, en Amazonie, en Corée. Vous savez, un peu dans ce monde nomade. Et on va y découvrir le parcours d'Emilie, Laurence, Elena et Maëlys et Victoire, puisqu'on aura aussi un passage vers la Norvège. Et on va y découvrir d'où on vient, où l'on va et pourquoi ce parcours a été chaotique.
Souvent, ce sont des questions que les adolescents se posent.
Oui, ma chère Léa, quand on arrive à l'adolescence, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire, on quitte la petite enfance pour arriver dans le monde des adultes. Et c'est toujours difficile parce que nous, en tant que parents, on leur dit « Bon, allez, c'est bon, d'accord, tu sais tout, tu connais tout. » Et quelquefois, on a l'impression que c'est de l'arrogance ou de l'insolence. Essayent de vouloir arriver comme ça en disant « Oui, moi, j'ai des connaissances, mais stop, en tant que parent, arrêtez, parce que moi aussi, j'ai envie de montrer ce que j'aime faire. » Et c'est pas toujours évident. Donc, grâce à ces livres, vous allez un peu les découvrir quand même. Un autre livre, « Il n'y a pas d'âge pour changer le monde », c'est 15 destins d'enfants qui ont marqué le cours de l'histoire de Caroline Louard et les illustrations de Sébastien Chéré, aux éditions Priva Jeunesse. Donc, vous avez Jeanne d'Arc, vous avez Guy Moquet, et j'en passe. On parle de tout, on parle de fascistes, de résistance, de militants, de LGBT. C'est 15 destins hors du commun. Et c'est aussi pour faire comprendre aux enfants que même quand on est adolescent, on peut avoir aussi des réflexions et des intérêts. Et puis, j'ai entre les mains des romans, sincèrement, qui nous parlent de tout. Donc, « Nos corps invisibles »,« Souviens-toi de nous toujours » et « Girls Bazaar ». Encore une fois, vous voyez bien, les couvertures, hein, sont, on parle de suicide, on parle d'amour, on parle de bidonville, on parle d'invisibilité parce que les corps ne sont pas, évidemment... On veut pas tous être filiformes, on peut pas parfait. Tous avoir des corps parfaits. Donc ces livres sont très importants, ce soit c'est Slalom, Cours toujours et chez Scrinéo. On a cette collection chez Endo Girls, c'est une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes. Ça encore, ça c'est un sujet qui est très important pour les adolescents parce que dès le plus jeune âge, il faut qu'elles aillent chez le gynéco. Et les parents leur parlent toujours avec un certain regard en disant oui, tu vas avoir mal la première fois, ça va pas être évident, mais il faut les laisser vivre aussi leur expérience. Et c'est à nous aussi de comprendre. Donc c'est chez Le Courrier du Livre.
En tout cas, tous ces livres là que vous présentez parlent quand même d'un certain mal-être de l'adolescent. Ils posent des questions qui sont des questions essentielles pour les ados, mais souvent derrière ces questions il y a une souffrance. C'est pour ça que peut-être cette lecture là elle est essentielle de la poser sur le bureau de l'adolescent sans plus.
Alors pas seulement, sincèrement Léa, pas seulement, parce que c'est très important et c'est pour ça que il faut accompagner les enfants dans leur lecture et même quand ils sont grands.
Les enfants ne se laissent pas forcément approcher à l'adolescence.
C'est-à-dire que oui, voilà, c'est un peu des animaux sauvages, je pense qu'on a cette expérience et c'est pour ça que d'abord il faut leur proposer ces petits livres qui sont sortis au prix de 3,50 €, c'est une collection qui s'appelle Halte. Faut-il en finir avec les contes de fées de Jennifer Tamas, la justice est-elle la même pour tous et comment jouir de la lecture. Ce sont des petits livres qui coûtent 3,50 €, vous leur laissez évidemment sur la table, mais tous ces autres livres, il faut absolument les lire. Et cette semaine, j'ai fait une expérience dans l'école dans laquelle je travaille et je leur ai demandé aux enfants de me dire quel est le livre en fait qui a marqué une partie de leur vie. Et il y a une petite Elsa qui qui m'a écrit un petit message et dont je voudrais lire. Elle m'a expliqué, elle a lu un livre qui s'appelle Les Pointes Noires. Alors, elle dit, je vais vous parler des Pointes Noires. Tout d'abord, ce roman a été écrit par Sophie Noël en 2018. Donc, on est, vous voyez, on est dans un orphelinat, on est au Mali. Elle découvre, cette petite fille, elle va découvrir la danse classique. Et cette danse classique va la sortir de cet orphelinat, de ce monde, un peu dans ce monde dans lequel elle est un peu en, dans un monde de marasme. Et elle va être confrontée, parce qu'elle est noire, parce qu'elle va arriver à l'Opéra de Paris, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est différente, et parce que, évidemment, elle n'a pas d'autre modèle vers qui se tourner. Donc, il va avoir des moqueries, du racisme, mais en même temps, elle va leur montrer, leur prouver à quel point on peut être différente, tout simplement différente, et réussir. Et là, on va suivre le travail et les espoirs d'Ève qui tient à son rêve et impose sa différence. L'auteur Sophie Noël dresse un beau portrait d'une artiste battante et déterminée qui pourrait inspirer bien des passions chez les petites filles.
Bon,
comme alors, je le disais ce matin, tout à l'heure, encore une fois, les filles sont mises à l'honneur.
Bon, et bien voilà, pas mal de sorties pour les adolescents. Merci Nathalie, et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, pour parler des Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques, évidemment, ça approche à grands pas.
Léa Moscona.
Radio G. Et c'est l'heure des pieds sur terre avec Jean-François Strouve. Bonjour Jean-François.
Eh bien bonjour Léa.
Alors
bonjour
aujourd'hui,
Nathalie.
Bonjour Jean-François, vous avez décidé de nous parler de reconstruction.
Oui, hier c'était Yom HaTzmaout, on reste un peu dans la fête quelque part, dans la mesure où c'était une journée un peu moins festive que les autres années. On avait tous en tête les 132 otages, on avait tous en tête tous les morts depuis le 7 octobre, mais il y a une sorte d'atmosphère printanière liée au fait que déjà sortent des groupes de travail, des commissions, des associations, des idées de perspectives de développement de ces régions dont nous devons rappeler que la population, plus de 300 000 habitants, sont encore déplacés. Alors, concernant le Sud, des efforts sont en cours dans le pays et à l'étranger pour restaurer la verdure luxuriante et le calme tranquille du Néguev occidental. Et donc, essentiellement agricole, c'est des communautés agricoles de la région qui sont responsables de la production d'énormément de produits alimentaires de base en Israël, parmi lesquels les pommes de terre, les tomates et les produits laitiers. À l'avant-garde des efforts de réhabilitation se trouve, alors c'est un écosystème que je voudrais décrire. À l'avant-garde se trouve une université qui est PGU, l'université Ben Gurion du Negev, du nom du premier ministre israélien David Ben Gurion et du plus grand employeur du désert du sud d'Israël qu'il aimait tant. Créée en 2017 pour faire progresser le secteur technologique dans la zone frontalière de Gaza, l'incubateur qui s'appelle South Up a annoncé l'ajout de 4 nouvelles start-up à son groupe existant de 30, donc de 27, ils sont maintenant 31, elles sont 31 start-up apportant de nouveaux développements dans le domaine des technologies médicales et agricoles pour reconstruire la scène de l'innovation. Un centre d'incubation a été installé dans la région de Shara Negev, dans le Negev, directement dans le kibbutz Nir Am, l'une des rares communautés dont la garde civile a réussi à repousser les terroristes envahissant Gaza.
Parce qu'on oublie que ce sont des régions qui ont souffert ce 7 octobre et après, et que aujourd'hui, peu à peu, il y a cette reconstruction, il y a cette reprise de l'activité dont vous nous parlez ce matin.
Absolument. Alors c'est un écosystème qui est très intéressant parce que ces gens-là, faut pas oublier que depuis les années 30, ce sont des pionniers d'Israël. Et donc, en quoi ils sont pionniers d'Israël aujourd'hui? Ils sont pionniers d'Israël dans le domaine de l'environnement.
Dans la recherche.
Dans la recherche, c'est-à-dire que on est en plein au cœur de notre sujet. On a affaire à des gens qui ont des groupes de travail. Il y a 800 startups en Israël qui sont consacrées uniquement à l'environnement. C'est énorme. Et donc, ces 800 startups, il y en a beaucoup dans le Sud. Par exemple, l'un des groupes de travail qui a été créé par South Up s'appelle Beyond Plastic. Au-delà du plastique, ça nous dit tout ça. Ça veut dire que ces gens-là, non seulement ils ont envie de reconstruire leur région après le 7 octobre, mais ils ont aussi envie de faire de cette région une région verte, une région qui soit durable et qui soit positif sur le plan de la lutte pour l'environnement.
Dans l'objectif même de ce que voulait David Ben-Gourion.
Absolument.
Hein, reverdir le désert.
Oui, mais même David Ben-Gourion avait des perspectives de dire il faut pas que ça nuise à la planète. Il faut qu'on soit en phase avec la nature. Il faut lui les grandes villes polluantes, c'était pas son truc. S'il s'est replié très vite dès qu'il a fini sa vie politique, c'est parce qu'il aimait la nature, les paysages du Néguev, la préservation des espèces protégées.
Mais de toute façon, dès la création de l'État d'Israël, il y a eu ce souci hein, de la nature, de alors la dompter, mais tout en la préservant. On a tous des images de ces kibboutz qui étaient de véritables paradis, avec cette flore tellement développée. Et bien sûr, après le chaos, aujourd'hui, c'est vraiment un travail énorme qui attend les Israéliens hein, de reconstruction et de retrouver justement cette nature.
Cette perspective, absolument. Cette nature.
Alors, Léa, vous avez complètement raison. Moi, j'ai habité pendant quelques années dans le Néguev. Et c'était vraiment le paradis sur Terre pour moi. Alors, beaucoup plus au sud parce que j'ai habité Yotveta. Vous savez, le célèbre kibboutz qui fait des laitages et des yaourts. Et c'est vrai que
et à Yotvata, une réserve naturelle.
Exactement,
le Khaybar Yotvata, c'est un endroit prodigieux. On y trouve des espèces de gazelles, d'ânes sauvages,
oui, qui viennent du temps de la Bible.
Oui, absolument. Ils essayent de reconstituer à Yotvata la faune qui était présente à l'époque biblique. Donc on arrive et on a l'impression d'être retourné à l'époque biblique avec des paysages splendides et au milieu il y a effectivement la fameuse laiterie Yotvata qui produit une bonne partie des produits laitiers du pays.
Et dans cet univers là, on a vraiment l'impression que ce désert qui par définition veut dire où il n'y a pas de vie, absence de vie. C'est là où j'ai rencontré le plus de vie et de vivacité. Des gens, des animaux, de la flore, de la faune, en y découvrant des espèces que je n'avais jamais vues sur Terre. Et en plus, à m'attacher à ce lieu, comme s'il m'appartenait rien qu'à moi.
Alors
c'est la force de ce Néguev.
Je vais compléter ce que dit Nathalie, parce que le premier jour de notre lune de miel s'est passé à Yotvata. Donc on avait
marqué le miel dans le yaourt, c'est très très bon.
On avait décidé qu'on allait passer notre premier jour au milieu des ânes sauvages et des gazelles.
Ouais. On va tous avoir. Alors Jean-François, vous nous parliez de hub, hein, précisément, c'est des incubateurs. Alors, pourriez-vous en dire un petit peu plus?
Oui, alors il s'agit d'accompagner les startups et les groupes qui veulent évoluer vers des startups dans l'ensemble des actes professionnels. Il y a un groupe qui s'appelle CAFRI qui donne une assistance pour accéder aux subventions de l'Autorité israélienne de l'innovation et des opportunités, recevoir des aides du Fonds d'impact de South Up, de la Fondation Mishtalar, des communautés de kibboutz et d'investisseurs étrangers. L'incubateur est une espèce de lieu de passage où tout le monde se retrouve. On a les experts, on a les donateurs, on a les angels, les ceux qui vont aider à créer les structures.
Toutes les disciplines finalement autour d'une même question.
Et cette idée, ça permet d'accélérer. L'incubateur est un accélérateur d'innovation parce que tous les obstacles que rencontrerait un jeune groupe, hein, on imagine des jeunes qui sortent de l'armée, qui ont envie de créer leur start-up, qui ont 22-23 ans, qui se connaissent par cœur parce qu'ils ont été à l'armée ensemble, ils veulent créer quelque chose et alors ils vont se casser les dents sur chaque étape. Bah, pas du tout, parce que les incubateurs sont là et ils reposent, et ça c'est le plus essentiel, ils reposent sur l'infrastructure de l'université Ben Gourion qui va leur mettre à disposition les labos, les lieux de travail, les espaces de coworking pour pouvoir progresser rapidement. Et ça, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Oui, il y a donc un échange, hein, il y a la communication qui est accélérée.
Oui, oui,
qui
ouais. est, et c'est même plus que de ouais. la communication, c'est fusionnel. Mm-hmm. Hein, ces groupes sont fusionnels, ils sortent de l'armée.
Mais ça, c'est un peu une méthode aussi à l'américaine.
Oui. C'est plus à l'israélien.
Ah, c'est plus à l'israélien.
C'est typique d'Israël parce que dans un groupe d'experts américains, ils n'ont pas l'expérience de cette fraternité d'armes qui leur donne tout de suite les codes de comment réagir par rapport à son proche ami quand on a passé 3 ans aux côtés d'un autre à défendre mutuellement la vie l'un de l'autre. On est capable, on se connaît par cœur et on est capable de s'entraider.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que souvent ces incubateurs sont constitués de jeunes qui se sont connus avant même le début de leur recherche et de leur activité.
Bien sûr,
donc l'armée fait partie finalement de ce processus aussi.
Ça fait partie du processus. Ouais, c'est pour ça que je le souligne parce que. Avec l'image très négative que des salopards donnent de Tsahal partout dans le monde, j'emploie volontiers ce terme fort. Nous qui savons ce que c'est que Tsahal, nous qui savons, qui connaissons ces jeunes soldats, qui en avons dans nos familles autour de nous, etc. Nous, on sait la richesse humaine exceptionnelle qui existe dans cette armée et la capacité individuelle de ces gens et collective d'être innovant et créatif.
Et on n'oublie jamais que cette armée s'appelle l'armée de défense d'Israël.
Absolument. C'est très juste, Nathalie. Alors, l'association environnementale Adam Teva Vadin, l'homme, la nature et la justice. C'est la plus grande aujourd'hui. C'est la plus grande association environnementale d'Israël.
Et qui va vers cette reconstruction. Quelle sera la tête du sud d'Israël?
Alors,
physionomie.
Voilà. Ils veulent l'appeler Evel Tekuma, c'est zone de renaissance, au lieu du terme très péjoratif qui me déplaît profondément depuis toujours, de Otef Aza, enveloppe de Gaza, comme si la fonction de cette région c'était uniquement d'entourer Gaza, ce qui n'a présente aucun intérêt, alors que ces gens justement méritent d'être pris en compte. Et l'idée de Evel Tekuma, elle me plaît, moi, parce que elle va dire beaucoup de choses de la volonté de renaître, de la volonté de travailler ensemble à des beaux projets et de travailler par exemple à deux mesures qui sont essentielles. La première mesure, c'est d'une espèce d'appellation AOC des produits qui sont sortis du sud, et cette idée pour laquelle je me bats moi depuis des années qui s'appelle le boycott. Boycott, ça veut du verbe buy, c'est acheter Kahol Lavan, acheter israélien, acheter bleu et blanc. Pour contrer le boycott, boycotter les produits d'Israël, ils seront demain les produits du sud d'Israël, non seulement bleu et blanc, mais ils seront aussi verts. Parce que l'idée, c'est de mettre les normes environnementales les plus élevées pour ces produits-là.
Quel est le premier produit israélien en France là que vous achetez par exemple souvent quotidiennement?
Les clémentines.
Les clémentines. Et vous, Nathalie?
J'allais dire pareil parce qu'en plus comme il est en orange.
Greg et moi, on préfère les avocats.
Non, oui, mais les clémentines au riz, je peux vous dire qu'actuellement elles sont mais d'une douceur.
Voilà, on va aller faire nos courses.
Mais tout ça compte énormément. Et je vais juste citer un nom. L'un des promoteurs du boycott en France, c'est un de nos amis qui s'appelle Guy Marzouk, qui achète des produits israéliens à longueur de temps et qui les offre à tout le monde. Voilà,
bon, enfin, très bien, vous me donnerez l'adresse de Guy. Hein. Moi aussi, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour cette belle émission. Merci Jean-François, Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine avec vous.
Avec un grand plaisir.
Merci.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J.